OK, donc, comme je disais aujourd'hui, c'est le dernier cours de la session. Le titre de chacun des cours était « Comme Christ ». Donc, l'objectif de ce cours, c'est de ressembler à Christ dans différents domaines de la vie qu'il a menée sur terre, pouvoir nous influencer aussi en tant que chrétiens. Nous sommes appuyés donc sur le livre de Andrew Murray, mais fondamentalement, en fait, c'est sur la parole de Dieu qu'on s'appuie et puis bénéficier effectivement aussi des enseignements qu'il a pu apporter. Nous voulons faire le résumé de tout ce qu'on a appris. Mais dans la pratique, chaque cours qu'on a eu l'occasion de donner, est-ce que son application a été peut-être effective dans chaque domaine? Donc, à partir de peut-être des titres que je vais pouvoir apporter sur ce qu'on a vu, chacun peut donner un exemple, comment l'application a pu se faire dans sa vie, ou à défaut, comment il peut nous donner peut-être des stratégies, des techniques pour que cela puisse nous aider aussi en tant que chrétiens. Et si je veux résumer en gros ce qu'on a pu voir chaque cours, d'abord nous avions vu comme Christ dans son service, comme Christ dans son renoncement, comme Christ dans sa mission, dans sa compassion, dans sa dépendance du Père, dans son amour, comme Christ dans ses prières, comme Christ dans son emploi des Écritures, comme Christ dans son pardon, comme Christ dans son humilité, comme Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Et ce matin, avant d'arriver au résumé, au rappel des autres cours, nous allons regarder rapidement comme Christ dans le don de soi, dans le don de sa vie pour les autres. Comme Christ dans le don de sa vie pour les autres. À ce titre-là, peut-être nous pourrions lire Matthieu. Matthieu 20, 17 à 28. Matthieu 20, 17 à 28. Comme Christ dans le don de sa vie pour les autres. Matthieu 20, 17 à 28. Donc ici, on voit que Jésus qui annonce son départ prochain, les souffrances qu'il allait vivre. Donc il annonce cela à ses disciples. Peu de temps après, on voit que la mère de certains disciples donc, arrive et puis demande une position auprès de Jésus dans son royaume. Et donc les autres disciples qui apprennent effectivement cela aussi sont un peu froissés dans leur relation. Alors je voudrais savoir qu'est-ce qui peut nous guetter en tant que, lorsqu'on regarde peut-être les menaces qui peuvent nous menacer en tant que disciples lorsqu'on regarde ce test en tant que disciples de Jésus. Quels sont les dangers? Toujours l'orgueil. Parce qu'on voit ici des personnes qui étaient intimes au Seigneur, qui étaient dans le précaré du Seigneur. Quand même, le moi de chacun est toujours présent. Je dirais les avantages, on veut les garder pour nous au lieu de pouvoir les partager. Donc nous, en tant que chrétiens aussi, souvent, c'est des choses qui vont rôder autour de nous. On peut être ouvert, on peut partager, mais notre moi, notre égoïsme prend toujours le dessus. On va toujours regarder à notre nombril. C'est-à-dire, quand bien même on sera ouvert, on sera, mais l'élément central reviendrait toujours à nous. On est désiré les bénédictions pour soi-même. Donc, comme notre sœur l'a dit, bénédiser les bénédictions pour soi-même, l'égoïsme. Donc, les disciples ne pensaient qu'à leurs intérêts. Donc, ici, on fait intervenir une troisième personne, donc, qui est la mère, qui ne fait même pas partie du précaré des disciples, qui vient négocier même les intérêts pour... Ils ne pensent qu'à la position qu'ils occuperont auprès du Seigneur. C'est ça. Donc, il y a tout à fait. Il y a l'irritation, parce qu'on a vu, quand on regarde le test à la fin, on dit, lorsque les autres disciples apprennent cela, quelle est leur attitude? Ils sont froissés, ils sont irrités. Or, l'irritation aussi peut produire encore... C'est-à-dire, au fur et à mesure, je veux dire, la gangrène peut pousser et puis produire autre chose, très vite. On parle d'orgueil. Donc, oh, l'orgueil, on nous dit que c'est une envie qui est démesurée. Donc, ça rentre, effectivement, l'envie rentre là-dedans. Maintenant, il y avait une question qui disait, mais il ne voulait pas aussi se laisser faire. Mais pourquoi il ne voulait pas se laisser faire?
Oui, juste rentrer là-dedans, parce que ça va vraiment là-dedans. La semaine passée, Anne et moi, on était à Rivière-des-Prairies. C'est Joël, mon frère, qui prêchait. D'habitude, c'est moi qui faisais la musique, mais qui dirigeais les cantiques. Mais Joël a prêché, puis il a donné une illustration qu'il a entendue à un moment donné, de Roy Lawson qui disait comme quoi que il y a une femme, ils avaient fait une fête pour reconnaître tout le ministère, le service d'une personne Donc, devant l'église, on fait une fête pour remercier tout ce que cette personne-là avait fait, ce frère ou cette sœur-là de l'église avait fait, tout ça. Et là, à la fin de tout ça, il y a une femme qui vient les voir. Et elle, ça fait 25 ans qu'elle travaille dans l'ombre et elle enseigne la classe d'école du dimanche depuis 25 ans. Puis elle va voir le pasteur Roy Lawson, puis elle dit, « Moi, j'ai jamais été célébré. On m'a jamais remercié. On m'a jamais fêté. On m'a jamais... » Puis mettez tout ce que vous voudrez par la suite. Elle dit, « Moi, je trouve ça injuste qu'on fête tel frère ou telle sœur, puis pas moi. » Elle dit, « Je vous donne ma démission. » Ben c'est un peu l'attitude des autres apôtres-là. Tu sais. Alors, Roy Lawson lui répond, « Pour qui fais-tu cela? » Ben Dieu, je le fais pour le Seigneur, elle dit. Ben il dit, va lui donner ta démission. Elle est revenue quelque temps après vers M. Lawson, hein? Alors lui là, pour, en tout cas, elle dit bon, j'ai compris. Elle dit je peux pas lui donner ma démission. Elle dit, j'ai pas été capable de donner ma démission.
Parce qu'il la recevait pas ou bien?
C'est ça. Pour qui on fait ce qu'on fait? C'est sûr que on peut même pas juger les sentiments de la maman. Hein, toutes les mamans veulent la meilleure place pour leur fils. Hein, vous êtes d'accord? Hein? On veut. Mais le Seigneur est en train de leur enseigner quelque chose. Puis il leur enseigne, parce que ce passage-là est très riche d'enseignements. Hein, il leur enseigne, Jésus leur dit, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Puis qu'est-ce qu'ils répondent aux autres?
Oui.
Ben oui, on va la boire. Il dit, c'est vrai, vous allez la boire, parce que vous allez souffrir après aussi. Après, c'est vrai. Mais il dit, pour ce qui est de la place, ça dépend pas de nous. Finalement, est-ce qu'ils ont compris à ce moment-là? Je suis loin d'être convaincu qu'ils ont compris. Je pense qu'ils ont compris par la suite. Hein? Mais nous, on a besoin d'apprendre à comprendre la place qu'on doit avoir, l'humilité.
De serviteur et d'humilité, l'erreur qu'on fait aussi comme chrétien, c'est qu'on pense, moi je suis pas un prédicateur, moi je suis pas, j'ai pas ce talent-là, tout ça. Mais le Seigneur a jamais demandé d'avoir un qualificatif quelconque de ce genre-là. Il demande des gens disponibles. Parce qu'il dit, c'est lui qui fait l'œuvre en nous. Fait que si on se rend disponible, Dieu dit que c'est lui qui va nous transformer, c'est lui qui va nous utiliser.
Amen. Donc, un élément important qu'il a ajouté, c'est Dieu qui utilise, c'est Dieu qui transforme. Seulement, il a besoin de notre disponibilité. Mais notre disponibilité ne devrait pas nous rendre orgueilleux. Parce que c'est lui qui crée en nous les capacités dont on aurait ou on pourrait avoir. C'est-à-dire, au même titre, Dieu bénit le prédicateur, au même titre, il bénit celui qui va balayer, au même titre, il va bénir celui qui va placer les tables. Donc, c'est lui qui fait toutes choses en tout un chacun de nous. Et puis, la position qu'on occuperait ne devrait pas être pour chacun une source d'orgueil. Parce que les dons, les talents et tout ça, là, on dit que c'est le même esprit qui les distribue. Dieu les distribue à qui il veut. Et on va ajouter comme il le veut, quand il le veut, où il le veut. Donc c'est Dieu qui est le maître, qui dirige toutes choses. Lorsqu'on lit ces passages et on les compare à Matthieu 20-28, quel était le but de Christ en venant sur terre? Donner sa vie comme rançon pour chacun de nous. À être l'agneau de Dieu, oui, de rançon. C'est-à-dire que malgré sa position, il a accepté de venir. Donc, son but ultime, c'était de donner sa vie pour nous, c'était de servir, c'était de nous de servir, mais et non se faire servir, quand bien même il avait cette position d'autorité. Ouais.
Puis si je peux me permettre, dans Éphésiens 5, messieurs, OK, les messieurs, là, c'est aux messieurs que je parle, mesdames, vous pouvez aller prendre un café. Il dit, Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église, s'est livré lui-même afin de la sanctifier par la parole, etc. Avec tout ce qu'on vient de lire, sur ce qu'on vient de regarder, les passages de la vie, ce que Jésus, ce qu'il venait faire sur terre, dans Philippiens chapitre 2, tout ça, il dit, nous, les maris, là, vous écoutez pas, mesdames, vous n'êtes pas supposé écouter, là, c'est au mari que ça. Hein? C'est comme ça qu'on doit aimer notre femme. OK? Toute femme qui va être aimée d'une manière sacrificielle comme Christ nous a aimés va être heureuse d'être une femme soumise à son mari. Si aujourd'hui on a des difficultés dans les couples, c'est pas à cause qu'on a des femmes qui manquent de soumission envers leur mari, même si c'est ça que les maris vont dire, mais c'est parce qu'ils ont des maris qui ne sont pas des chefs dans leur foyer, comme Christ s'attend qu'on soit. Comme si, ben pas qu'il s'attend, mais qu'il nous dit d'être. OK? Et si on est, je sais pas qui a mentionné tout à l'heure, d'être obéissant, il y a quelqu'un qui a mentionné que pour être comme Christ, on est obéissant, ben on est obéissant là aussi. Pas juste dans ce qui fait notre affaire. Hein? Pas de problème à être obéissant. En tout cas, moi, j'ai pas de problème à être obéissant dans ce qui fait mon affaire. Hein? Oui, moi, mais j'ai de la difficulté à être obéissant quand ça vient toucher les petits coins un petit peu qui font moins mon affaire. Je sais que vous n'avez pas, vous autres. Hein? Mais si aujourd'hui, on était des chefs dans nos foyers, ce matin, on va parler de leadership dans le culte. Hein? Si on était des chefs, des leaders dans les foyers, on serait des leaders dans l'Église, on serait des leaders tout court, mais on serait des leaders comme Christ l'a été, un humble leader prêt à aller jusqu'à la croix. Et un leader comme Christ, qu'est-ce qui est arrivé?
On l'a tué. Il a donné sa vie pour nous.
On l'a crucifié. Alors, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on soit comme enfant de Dieu, comme chrétien élevé, on va être niaisé. On sera peut-être pas mis à mort ici, mais on va être niaisé. Donc, il ne faut pas s'attendre à être élevé, même dans l'Église. Il faut y aller d'une manière humble. Et l'humilité est gratifiante où?
Quand on sert.
Pardon?
Quand on sert.
Oui.
Quand on sait qu'on fait plaisir à Dieu.
Quand on fait plaisir à Dieu, oui. Elle va être gratifiante quand on va rencontrer Dieu face à face, puis qu'il va nous dire, viens, bon et fidèle serviteur. Pensez-y, pensez-y, c'est Dieu lui-même qui va nous dire, viens Dominique, viens Christine, Micheline, Richard, Bernard, Célestin, viens, bon et fidèle serviteur. C'est Dieu lui-même qui va nous dire ça. C'est là que toute, puis je parle pas d'orgueil, là, il nous dit que même un verre d'eau donné à un moindre des petits, OK, un des parmi nous, ne sera pas oublié. Donc, ça c'est là qu'il est. S'il y a gratification, OK, si je vais employer ça, c'est là qu'elle est.
Sommes-nous capables, sommes-nous prêts à donner aussi notre vie pour les autres? L'une des possibilités qu'on a, ce serait donc de parler de ce maître-là, de ce Seigneur autour de nous, parce qu'il est venu pour toute l'humanité. Et donc, il nous encourage à pouvoir l'annoncer, à pouvoir annoncer cet amour-là, parce qu'il a donné son amour pour nous. On a compris, ou du moins, il nous a fait grâce de comprendre et d'entrer dans la bergerie. Mais beaucoup dehors aussi attendent d'entrer dans cette bergerie-là. Peut-être attendre qu'on leur parle, attendre que quelqu'un qui a reçu l'amour de Christ puisse lui dire, mais Jésus t'aime, mais Christ est venu mourir à la croix pour toi. Est-ce qu'on peut s'engager à cette démarche-là aussi? Et c'est pour tout cela que le Seigneur voudrait qu'on partage effectivement cet amour qu'il nous donne autour de nous. C'est-à-dire aujourd'hui, peut-être personne ne passerait à la croix. Mais des fois, on passe par la croix dans l'évangélisation, dans l'amour pour les autres, pour qu'ils gagnent, pour qu'ils puissent recevoir ce Christ-là. Parce que nous sommes morts avec Christ à la croix. Et cet amour qui réjaillit, là, nous devons être capables de pouvoir le partager aussi aux autres. Mais des fois, on va le garder effectivement pour nous, moi personnellement.
Dans Jean, ça dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Oui. Donner sa vie, c'est plusieurs aspects. C'est de son temps, c'est de son argent, c'est beaucoup de choses. Oui. Ça coûte de quoi?
Oui.
Pour donner serviteur vraiment de Dieu, c'est pas mon superflu. Il y a une offrande qu'il faut que je fasse aussi.
Amen. Donc, c'est ça, donner sa vie pour les autres. Comme on l'a dit tantôt, peut-être on se mettrait pas à la croix aujourd'hui, mais dans chaque domaine de notre vie, on peut donner de notre temps, on peut donner de notre bien, de notre argent. Imaginons, on a parlé des missionnaires tout à l'heure qui vont peut-être très loin, mais on ne sait même pas comment ces personnes-là se débrouillent pour vivre. Des fois, c'est dans des situations difficiles. Beaucoup de missionnaires même perdent la vie. Pensons même aux chrétiens dans des pays où l'évangile est interdit. mais qui s'efforcent quand même de faire connaître le Seigneur dans leur milieu, au risque de leur vie. Et comme on le dit, le sang des martyrs fait germer l'Église. Parce que Christ est le fondement. Et lorsque Christ est dedans, c'est-à-dire même les persécutions, même les difficultés apparentes que l'on peut rencontrer, au fait, constituent des opportunités de gloire, de rendre gloire au Seigneur. Donc, comme Christ, exerçons le ministère d'amour qui cherche à gagner des âmes. Parce que c'est pour ça que Christ est venu. Pour que le royaume s'étende davantage. Pour que des âmes soient sauvées. Donc, comme Christ, on peut exercer ce ministère d'amour-là aussi, autour de nous. Donc, ça, c'est la première partie que je voulais qu'on puisse voir avant de passer au résumé de tout ce qu'on a pu voir durant ces 12 périodes de couple. Donc, nous avions l'occasion de voir plusieurs aspects de la vie de Christ que nous devons imiter. Parce que l'objectif, c'était de devenir comme Christ. Donc, ressembler à Christ. Être comme Christ. Christ est Dieu. Nous sommes humains. Mais est-ce qu'on peut ressembler à Christ? Oui, nous l'avions dit qu'on peut ressembler à Christ parce que lui-même nous l'a demandé. Et le premier point que nous avions vu, c'était d'être comme Christ dans son service. Et Jean 13, versets 15 à 14. Comme Christ dans son service. Et comment devons-nous servir comme Christ? J'ai essayé dans chaque aspect que nous avions vu de prendre ne serait-ce qu'un verset pour qu'on le regarde et puis à partir de ce qu'on a pu dire aussi, faire ressortir des éléments. Jean 13, 14 à 15.
Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait.
Et qu'est-ce qui nous a marqué ou après cela, qu'est-ce qu'on a pu appliquer dans nos vies de tous les jours qui a été un modèle de service comme Christ? Ici, il donnait l'exemple qu'il a pu laver effectivement les pieds des disciples. On se souvient que Pierre a dit non, mais ce n'est pas possible, toi tu ne peux pas me laver les pieds. Donc ça, c'est un aspect qu'on a donc servi sans acception de personne. Alors, on ne va pas servir parce que cette personne a une position d'autorité. On la sait parce qu'elle a cette position d'autorité. Mais Christ n'a pas... C'était Christ qui avait la position d'autorité, mais il s'est rabaissé pour servir ceux qui n'avaient pas la position d'autorité. Et c'est comme ça que Christ voudrait que nous puissions servir. Donc, servir avec humilité, avec amour, sans égard à sa propre position, mais en recherchant à être une source de bénédiction pour les autres. Donc, lorsque nous servons Dieu, nous rendons gloire au Seigneur, mais en cherchant à être une source de bénédiction aussi pour les autres. Lorsqu'on avait vu ce passé, on avait vu que Christ non seulement s'occupait du corps, mais il s'occupait aussi de l'âme de ses disciples. D'ailleurs, en même temps qu'il les rendait propres, en même temps il les enseignait et il leur montrait la voie à suivre. Comme Christ dans son renoncement à soi, 1 Pierre 2, 19 à 25. 1 Pierre 2, 19 à 25. Donc ici, la souffrance de Christ avait pour objectif de rendre gloire. Gloire à Dieu. Donc dans son renoncement, Christ voyait la souffrance comme le chemin qui menait aussi vers la victoire. Le chemin qui menait vers la délivrance. Parce qu'il avait un but, il avait une mission accomplie. Donc pour lui, la souffrance était la volonté de Dieu. Parce qu'on se souvient à Gethsémané. Mais éloigne cette coupe de moi. Mais que ce soit ta volonté qui se fasse. Oui, pasteur Don.
Dans les souffrances, on a toujours tendance à penser qu'on croit que pour souffrir, il faut que ça soit dur, qu'on soit blessé, qu'on soit mis à mort sur une croix. Vous comprenez ce que je veux dire, là? Mais il y a plus que cela. La souffrance, c'est quand on rentre le soir du travail, on vient de faire 12 heures en ligne, on a commencé à 4 heures du matin, on rentre, il est 6 heures à la maison, là on aspire à s'asseoir, mettre les deux pieds en dessous de la table, avoir un bon repas chaud, là. Après, on s'effoie devant la télévision, puis on fait rien, on se repose. Mais là, on reçoit un coup de téléphone. Un frère, une sœur est mal pris. Dom, peux-tu venir m'aider? Je suis mal pris. Tais-toi, Richard. Et puis, je sais à quoi il pense, c'est pour ça. Et la souffrance, c'est oh, tabarouette, ça me tente vraiment pas. Tu sais, on n'a pas une attitude que le gars, on a la personne qui vient de nous appeler, on a l'intention de le bénir en descendant les seins du paradis contre lui. La souffrance est là. Il y a un besoin ponctuel. Et là, on doit s'oublier soi-même, comme ma sœur vient de dire, pour faire... Vous comprenez? Puis Christine vient de dire, c'est dur. Pourquoi c'est dur? Pourquoi c'est dur? Est-ce que c'est ça la réponse? J'ai besoin de repos? Si vous êtes comme moi ou aussi bon que moi, sur le chemin du retour, on s'est fait une idée, on s'est fait un programme, on s'est fait un plan. Puis c'est ça le plan que j'ai tracé pour la soirée. J'ai fait ce que j'avais à faire. Point. Mais là, le Seigneur te dit, non, je veux que t'en fasses un bout de plus. La parole de Dieu nous dit d'ailleurs, si quelqu'un veut te prendre ton manteau, qu'est-ce que tu dois faire? Donne-y ta chemise. Ça, c'est le même passage, je frappe sur la joue droite, donne-y la joue gauche. Dans l'Église, en plus, il y a des besoins. Tu sais? Alors, des fois, là, il y a un frère qui est venu me voir. Je finis avec ça, Isabelle. Bon, oui. Un frère qui est venu me voir, Dominique, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Il dit, je veux vous aider. J'ai dit, j'aimerais que tu ailles visiter un tel et un tel. Alors, moi, j'aime pas les visites. Et là, j'ai dit, tu me demandes, qu'est-ce que je peux faire pour aider? J'ai dit, va visiter un tel et un tel. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Va l'écouter. Point. Va prier avec lui ou avec elle. C'est tout. Va visiter. Et là, il veut pas y aller. Pourquoi? Parce que j'aime pas les visites. C'est ça la difficulté, hein. On veut faire ce
qu'on veut.
Voilà. Ce qu'on aime. Mais, pourtant, dans la vie, est-ce qu'on fait toujours ce qu'on aime?
Non.
Non. Donc, dans l'Église, on a des besoins. Je pense à ça. Margaret vient de déménager. Vous connaissez Margaret? Elle est en chaise roulante ici, là. OK? Et puis là, elle est prise dans les boîtes. Qui va aller aider Margaret? Qui va aller aider Margaret? Margaret, je m'en viens lundi, là. Je viens vider des boîtes avec toi. Je vais t'aider. Elle va être dans des boîtes pendant des semaines avant que les services sociaux l'aident. Fait qu'elle dit, là, je trouve plus ci, je trouve plus ça. Pensez à tout ce que vous trouvez le matin dans votre tiroir quand vous l'ouvrez, là, OK? Bon, je n'irai pas dans votre intimité, vous comprenez? C'est ça, souffrir. C'est ça, souffrir. C'est pas... Il y en a qui meurent,
oui,
mais pour nous, on ne mourra pas. Le souper est prêt chez nous, le dîner est prêt, le frigidaire est plein, vous comprenez ce que je veux dire? Mais il y en a qui ont des besoins. Et ça, c'est à penser à ça,
amen,
souffrir avec.
Jésus a raconté une histoire comme ça. L'ami qui vient frapper à la gueule d'un rue, il n'a rien à leur donner à manger. Il finit l'histoire en disant, s'il ne se lève pas parce que ça le dérange que l'autre frappe, bien qu'il se lève au moins pour l'importunité de l'autre. C'est toujours
ça.
De penser
à ça. Alors, c'est ça. Et tout à fait.
Le bon samaritain aussi.
Le bon samaritain, là, les personnes qui auraient dû... s'occuper du gars blessé, ils ont passé à côté. C'est nous autres qui passons à côté, là.
Ouais.
OK? Mm-hmm. Et c'est le païen, le gars de ordinaire qui va s'en occuper. Est-ce que ça devrait être le contraire?
Donc, en toute chose, comme le maître l'a fait dans son service, venu pour servir les autres et non pour se faire servir, donc regardons effectivement l'autre, au lieu de regarder notre moi, mais regardons l'autre. Et comme Christ dans sa mission, ayons la compassion pour les autres. Nous devons faire connaître l'amour du Père dans le monde. Jean 17, verset 18. Dans sa compassion, 1 Jean 3, verset 16. Lionel, Jean 17, verset 18. Donc ça, c'était la mission de Christ. Il a été envoyé dans le monde pour nous. Lui aussi, il nous a envoyé donc en tant que disciple pour le monde. Donc faisons donc connaître cet amour de Christ là autour de nous. Dans sa compassion, 1 Jean 3, verset 16. 1 Jean 3, verset 16. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. parce que le pasteur Dom a étayé effectivement avec d'autres exemples, c'est-à-dire notre vie ne serait pas, comme on l'a dit, peut-être à la croix, mais par notre temps qu'on va donner, par l'engagement qu'on pourrait avoir à l'endroit des autres, ce serait donner notre temps. Bernard a parlé de nos biens tantôt, de notre offrande, de notre argent qu'on peut donner aussi pour les autres. Parce que tu vois, tu travailles peut-être 8 heures, des fois 12 heures, mais c'est à la sueur de ton front des fois. Mais partage aussi. Donc ça aussi, c'est donner sa vie pour les autres. Jean 6, verset 38, Christ dans sa dépendance du Père. Jean 6, verset 38. Je vais demander à notre sœur de le lire. Jean 6, verset 38.
Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé.
Ok, donc il est venu pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Mais Christ était Dieu pourtant, il pouvait décider lui-même sur terre de dire « je décide de faire ça », mais il reste quand même dépendant de Dieu. Mais pourquoi il restait dépendant de Dieu? Bon, je dirais de Dieu le Père. C'est difficile de ne pas être dépendant de Dieu, hein? C'est ça? Quand il arrive qu'il y a des choses qu'on peut accomplir, ou du moins on a l'impression d'accomplir nous-mêmes sans effort, on pense que ça ne dépend pas de Dieu, mais ça dépend de nous. Dieu, même dans les choses qu'on accomplit, on doit pouvoir avoir à l'esprit que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes capables de les accomplir. Ça, c'est un élément très important. Parce que tant qu'on pensera que c'est par nos propres forces, nos capacités, en ce moment, on coupe notre lien de dépendance avec Dieu. Là, en ce moment, c'est notre moi qui prend le dessus. Et quand notre moi prend le dessus, le diable aussi nous propose des choses.
Et on se sent coupable quand on... Quand on voit qu'on n'a pas fait, on se sent coupable parce qu'on pense que c'est nous qui...
C'est nous, tout à fait.
Oui, mais si on croit qu'on est capable tout seul, c'est sûr qu'on se sent coupable quand on voit qu'on n'est pas capable. Mais si on reste dépendant de Dieu, on cherche à rester dépendant de Dieu...
C'est Dieu qui va nous donner le pardon.
Il nous donne le pardon, alors. C'est complètement différent.
C'est tout à fait, c'est complètement différent parce que lorsqu'on va vouloir prendre nous-mêmes le fardeau, lorsqu'on va vouloir le charger... Et qu'on ne sera pas capable de s'en défaire, effectivement. On est choqué, on est triste, on est dans le désespoir. On est déçu de nous-mêmes. Oui. Et puis, être déçu de soi aussi entraîne aussi peut-être d'autres sentiments d'autres maux qu'on pourrait avoir nous-mêmes parce qu'on essaie de porter nous-mêmes le fardeau et le charger. Mais lorsqu'il est déchargé au pied du Seigneur, lorsqu'on se dit que ce soit le ministère, la tâche qu'on a accomplie en réalité, ce n'est pas notre tâche, c'est la tâche du Seigneur. On dira, mais Seigneur, fais ton œuvre. Nous ne sommes que des instruments que tu utilises comme tu veux. Permets qu'on puisse t'honorer au travers de ce que tu nous donnes de faire. En ce moment-là, on dirait que ça, c'est l'affaire de Dieu. Nous sommes impliqués, mais c'est lui le responsable de son affaire et on reste dépendant de lui pour pouvoir avancer. Il y aura toujours cette lutte-là. La chair va vouloir prendre le dessus. Mais on doit pouvoir revenir à ce que Dieu a dit. Amen. Donc, Christ, ça montre ici la dépendance du cep et du sarment. Donc, Christ est le cep, nous sommes les sarments. Le cep même s'est attaché à Dieu et allé vers lui. Donc, nous aussi, nous devons aller vers le Père parce que c'est lui la source. Et Christ faisait la volonté de Dieu, cette même vie d'obéissance. Parce que quand on parle de volonté de Dieu, il y a la vie d'obéissance qui au fait, c'est l'obéissance, au fait. Donc, cette même vie d'obéissance de notre Seigneur Jésus dans sa chair nous est communiquée par le Saint-Esprit. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui nous donnera la force de pouvoir être obéissant au Seigneur, de pouvoir marcher selon la volonté de Dieu, non par nos propres forces, parce qu'on n'y arrivera pas, par notre propre intelligence, nos stratégies quelconques qu'on va vouloir mettre sur pied pour pouvoir plaire à Dieu, nous ferons chuter. Mais lorsqu'on va s'appuyer sur l'Esprit de Dieu, on va faire confiance à Dieu, en ce moment-là, nous serons victorieux sur les tentations, victorieux sur les œuvres du diable, victorieux sur les plans de l'ennemi. Mais seulement lorsqu'on va s'appuyer sur le Seigneur, lui seul, par son Esprit. Comme Christ dans son amour, Jean 13, verset 34. Comme Christ dans son amour, Jean 13, verset 34. Je vais demander à la sœur Sylvie de nous préparer Marc 1, verset 25. Oui, tu peux le lire. Jean 13, verset 34.
Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres.
Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Est-ce que c'est facile de s'aimer?
Mais il ne faut pas.
Il ne faut pas. Notre moi est tellement terrible.
Oh, oui.
Mais est-ce qu'il n'a pas été crucifié avec Christ à la croix? Il aurait dû ou bien...
Non, il faut lui rappeler tous les jours qu'il est mort.
C'est ça, il faut lui rappeler parce qu'il va toujours revenir au galop. Hein. C'est-à-dire qu'on le veuille ou pas. C'est-à-dire dès qu'on se réveille...
C'est
vrai. Hein? Qu'on le veuille ou pas, le moi, il est présent parce qu'il fait partie de nous. C'est une partie de nous, notre moi. Mais il doit être assujetti parce que Christ est au-dessus. En plus du pardon qu'on a, comment on peut s'aimer les uns les autres? C'est ça, la crainte de Dieu, c'est le commencement. C'est ça. Or, pour avoir cette sagesse-là, où est-ce qu'on va la tirer? Dans la parole de Dieu. Donc, ça montre notre intimité, notre relation personnelle avec le Seigneur. C'est-à-dire, c'est notre intimité avec Dieu qui va créer en nous les conditions d'obéissance à la parole de Dieu parce que du moins des conditions d'obéissance à Dieu. Je ne dirais pas la parole de Dieu. Parce que c'est lorsqu'on sera intime à cette parole-là, c'est lorsqu'on va la regarder qu'elle nous montrera les règles à suivre. Et lorsqu'on va suivre les règles, en ce moment-là, on obéit à Dieu. Mais si on ne la lit pas, comment on va la connaître? Comment on va savoir que Dieu dit pour telle situation, voici comment on doit pouvoir se comporter?
On peut pécher autant par la pensée que par l'intelligence.
Oui, c'est ça.
On peut pécher par l'inaction aussi.
Si on est tout seul, une chose certaine, on ne pratiquera pas l'amour des autres. Et si on ne pratique pas l'amour, le verset 35 est clair, si je ne pratique pas l'amour des autres disciples, ceux du dehors ne sauront pas que nous sommes les disciples de Christ. Ça, c'est très clair, on le voit très clairement dans le début de l'Église, après le sermon de Pierre dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, les versets qui suivent 42 en passant, il le dit clairement, avec tout ce qui se passait dans l'Église, l'amour qu'il y avait dans l'Église, pourtant, là, écoute bien, il devait avoir autant de différents que nous, on en a. Les gens du dehors ont dit « Wow! » C'est quelque chose. Et le Seigneur ajoutait à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Est-ce qu'ils sont partis en campagne d'évangélisation avec Billy Graham? Non. Tu vas me dire, ils avaient l'apôtre Pierre, c'était peut-être mieux. Mais en tout cas, ils ne sont pas allés en campagne. C'est juste le fait qu'ils avaient de l'amour les uns pour les autres. Puis les gens ont dit « Wow! Je veux connaître ça, moi! »
Amen. Et puis des fois même, on a le témoignage des personnes, des fois, qui nous visitent et puis qui disent souvent, qui vont dire, « Ah, je suis resté à l'église parce que j'ai senti la fraternité, j'ai senti l'amour qu'il y avait, j'ai senti qu'une personne, à la fin du culte, est venue parler avec moi parce que les gens en ont besoin. » La question, comment on peut s'aider? On peut montrer qu'on s'aime d'une façon physique, juste dans les paroles, « Ah, dire à mon frère, je t'aime. » Donc, en s'intéressant à la situation de l'autre. C'est-à-dire en étant attentif. Et comme le pasteur Dom l'a dit tantôt, c'est-à-dire pas en murmurant le faisant ou en allant off, mais j'aurais pas dû off, mais je sais pas, il est. Mais on doit trouver que c'est une bénédiction d'avoir, non seulement pour nous, le fait de servir est une bénédiction. Le fait d'aider l'autre est une bénédiction. C'est ce que le Seigneur nous demande.
C'est comme la parabole des deux fils. Dans la vigne, tu sais, le père, il demande, je ne sais plus si c'est le serviteur ou le père qui demande au fils, là, il dit, je t'attends demain matin pour travailler. Oui, je vais y aller, pas de problème. Puis il n'a pas été.
Il vient pas.
Tandis que l'autre, il dit, ça m'écœure, ça me tente pas, je suis en vacances, j'ai travaillé 12 heures la veille, je veux pas y aller, mais le lendemain matin, il se lève puis il va. Lequel des deux a pratiqué, entre guillemets, l'amour dans cette situation? Il a bien beau bougonner, l'autre. Mais il est allé. Il a pratiqué. Il est allé peut-être de reculons, mais il est allé. Il a pratiqué l'amour et l'obéissance en même temps. Et c'est bon pour chacun de nous, ça. On est un corps, le corps de Christ ensemble. On forme un corps. On a besoin les uns et des autres. Et vous le savez, quand il y a un morceau, quand vous avez mal à la tête, OK? Ça vous arrive d'avoir mal à la tête des fois, là? Qu'est-ce qui s'en ressent? Juste la tête, puis on peut faire le reste. On peut aller jouer, faire du ski. Non, quand on a mal à la tête, tout le corps en souffre. Et dans l'Église, ça devrait être la même chose. Quand il y a un besoin, Le corps doit se sentir concerné. Amen. Alors, ce n'est pas tout le monde qui va répondre à un besoin. On n'enverra pas 200 personnes chez Margaret, par exemple, vu qu'Hélène l'a sortie. Non, il y en a 2-3 qui vont se sentir, c'est suffisant. Il y a un besoin, il y en a 2-3 qui se sentent concernés, c'est parfait, c'est ça. Mais il ne faut pas que ça soit toujours les 2-3 mêmes. C'est ça le corps de Christ. Amen. On n'est pas représentatif du corps de Christ. Il y a 300 membres à l'église de Rosemont. On est une trentaine ici. Faut être réaliste, là. Mais c'est ça, être concerné et être pratique dans l'amour.
Amen. Comme Christ dans ses prières. Marc 1, verset 25. Marc 1, verset 25. Jean 14, verset 12-14. Jean 14, verset 12 à.
Et en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et j'en ferai de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.
Si on demande quelque chose en son nom, il le fera. Donc lui, il avait autorité. Donc cette autorité-là, nous l'avons aussi lorsqu'on demande la chose en son nom. Et Christ est le fondement de notre vie de prière. Et sa prière est pour nous un modèle. Assujetti aux lois de l'humanité, notre vie spirituelle a besoin de recourir sans cesse à la source qui est le Père. Adressons-nous à Dieu comme un Père. Parce qu'on se rendait compte que quand Christ y priait aussi, il s'adressait à Dieu comme un Père. Or, nous sommes appelés enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut s'adresser à Dieu aussi comme un Père?
Amen.
Amen. C'est ça, Dieu c'est notre papa. Donc on demande, tout ce qu'on demande au Père, Dieu le fait. C'est comme un fils demanderait à son Père quoi, des choses, mais c'est le Père qui va décider. Quand bien même le fils va demander, l'enfant de 3 ans qui demande un couteau. Donc le Père dira, mais c'est vrai, tu serais capable d'utiliser un couteau, mais pas à cet âge-ci. Et le Père va planifier en fonction du besoin réel de l'enfant. Mais aussi, quand on demande des choses à Dieu, on nous dit même le nom de Dieu pour nous est une réponse. C'est-à-dire, en même temps que Dieu va dire oui, en même temps aussi que Dieu va dire non. En même temps, il peut dire attends, ce n'est pas le moment. Donc, tous ces éléments-là sont des réponses pour Dieu. Donc, à nous de pouvoir attendre avec patience, c'est-à-dire, et puis savoir recevoir ce que Dieu nous donne et l'exploiter comme il le veut. Des fois, il nous donne, mais nous sommes de mauvais gestionnaires. Des fois, il nous donne, mais nous sommes de mauvais gestionnaires. Ça, ma vie en témoigne de façon, je dirais, exponentielle, parce que je suis un mauvais gestionnaire. Donc, Dieu donne, mais des fois, nous sommes de mauvais gestionnaires. Des fois, il va dire, attends, comme tu es un mauvais gestionnaire, je te fais attendre un peu. Quand tu sauras gérer, je vais te donner.
Mm-hmm. Amen.
Parce que Dieu, il donne. Donc, le Seigneur dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Amen. Dieu nous rend capables de pouvoir aimer nos prochains aussi quand on ne peut pas le faire. Ça peut faire partie des demandes qu'on peut adresser au Seigneur. Comme Christ dans son emploi des Écritures, notre relation avec Dieu et nos relations les uns les autres doivent être fondées sur la parole de Dieu qui donne de connaître les pensées de Dieu. C'est dans l'emploi de la parole que le diable a été vaincu. Se souvient des tentations de Jésus. Donc il est important qu'on puisse s'appuyer sur la parole. Comme Christ dans son pardon, le pardon de Dieu est inséparable de notre pardon à l'égard de nos semblables. Lorsqu'on demande pardon à Dieu pour nos péchés, on doit pouvoir se souvenir aussi qu'on doit pardonner à ceux qui nous ont offensés. Mm-hmm. Donc les deux sont liés. Dans son humilité, il faut que nous ayons le même esprit que Christ. Il faut surtout que nous lui ressemblions dans son humilité, dans son dépouillement et dans son abaissement. Cette humilité est pour nous une source de bénédiction. Dans sa mort et dans sa résurrection, comme Christ, nous sommes morts au péché et vivants pour la gloire de Dieu. Et dans le don de sa vie pour les autres, comme Christ exerçant le ministère d'amour qui cherche à gagner des âmes pour le royaume.
Alors j'espère qu'ensemble, on a appris beaucoup de choses concernant tout ce que le modèle que Christ a est le modèle qu'il veut imprimer dans notre vie. Et quand on regarde le mot chrétien, ça veut dire petit Christ ou comme Christ. C'est ça que ça veut dire chrétien. Nous sommes des petits chrétiens. J'insiste sur le mot petit, là. Pense, ne nous enflons pas la tête. On passera plus dans le cadrage de la porte, sinon après, là. Mais, et parce qu'on doit refléter Jésus-Christ. C'est ça que ceux autour de nous, les frères et les sœurs et les voisins, les voisines, la famille, doivent voir en nous Jésus-Christ. Prions. Père Céleste, merci pour Célestin, merci pour ta parole qu'on a méditée. Merci Seigneur pour cette classe. Merci parce que dans ton église ici à Rosemont, on veut mettre en priorité dans nos vies ta parole. C'est toi qui nous enseigne, c'est toi qui nous instruis, c'est toi qui nous dirige, c'est toi qui nous montre ta volonté pour nos vies dans ta parole. C'est toi qui nous sauve, c'est toi qui as tout payé. Nous dépendons de toi. Merci Seigneur parce que nous pouvons regarder à toi et que par Jésus-Christ, nous avons un libre accès au trône du roi des rois, de l'éternel qu'on peut appeler papa. Merci Seigneur pour un si grand salut. Au nom de Jésus. Amen.